Bonjour, tout ça pour ça. Au lendemain des mesures prises par la BNS pour freiner la flambée du franc, force est de constater que les effets sont assez peu spectaculaires. Nous ferons le point avec Pascal Bénard et nous demanderons à Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, de nous dire ce qui se cache derrière la notion d'intérêt négatif que l'on entend dans toutes les bouches et à toutes les sauces ces derniers temps. Toujours au menu de ce journal, la bonne nouvelle pour les employés de Swiss Metal qui vont enfin recevoir leur salaire de juillet après des jours d'attente et d'angoisse, nous dira Maurice Doukas. Nous parlerons aussi musique avec le passage de Trianne ce soir au Guinness Irish Festival de Sion. Nous appellerons l'un des membres fondateurs du groupe breton, Jean-Louis Jossic. La marche blanche s'est terminée. La présidente de l'association de lutte contre la pédophilie en Suisse, Christine Bussa, qui la porte à bout de bras depuis 10 ans et qui a obtenu de nombreuses avancées, a décidé que la mission était accomplie et qu'il était temps de passer à autre chose. Elle sera notre invitée en direct à la fin de ce journal. Météo, ça se gâte, les nuages joueront les troubles faits cet après-midi au nord du plateau, sur la Joie et la région des Préalpes, avec des maximales comprises entre 25 et 28 degrés en pleine. La matinée de demain s'annonce partiellement ensoleillée, mais des averses généralisées sont attendues l'après-midi et en soirée. Ciel changeant samedi et carrément maussade dimanche, nous dira Stéphanie Collère. 24 heures après l'annonce du dispositif de la Banque Nationale Suisse pour tenter de stopper l'appréciation du franc face à l'euro et au dollar américain, force est de constater que les effets escomptés ne sont pas vraiment au rendez-vous, Pascal Bénard.
L'impact psychologique est plutôt bon. Les milieux économiques ont salué les décisions de la Banque Centrale, tout en admettant qu'il ne fallait pas en espérer de miracle. La classe politique s'est montrée plus sceptique, surtout la gauche, l'UDC aussi. Dans la pratique, force est de constater que le tassement du franc suisse est plutôt modeste ce matin. Pour acheter 1 euro, il faut débourser 1 centime de plus qu'hier, soit environ 1,10 franc contre à peu près 1,09 franc mercredi. Même topo, question dollar. Rien de bien miraculeux donc. On observera tout de même que les bourses sont ouvertes à la hausse. Le marché suisse comme Paris, Francfort et Londres. Mais ni les mesures de la BNS, ni celles prises cette nuit par le Japon pour freiner l'essor du yen, n'y sont pour quoi que ce soit. Il s'agit d'un rebond technique, phénomène qui s'observe souvent à la bourse après une forte baisse, de la même manière qu'une balle de tennis rebondit après avoir frappé le sol. Car sur le front des dettes institutionnelles européennes, rien n'a changé. Certains analystes disent même que le pire est à venir. L'inquiétude demeure et les marchés en témoignent. À la mi-journée, les principaux indices boursiers se sont érodés.
Et depuis que le franc suisse bat des records, on entend régulièrement parler dans la bouche des économistes ou des politiciens de la notion d'intérêt négatif. Une mesure que la Suisse avait mise en place sans succès à la fin des années 70. Nous avons demandé à Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, de nous en expliquer le fonctionnement.
Eh bien, ce serait un système dans lequel les rémunérations offertes sur ces dépôts sont tellement proches de zéro ou égales à zéro que, une fois l'inflation passée, le taux d'intérêt réel effectif est négatif. Alors ça, c'est une première version. Une deuxième version, ce serait plutôt effectivement concernant donc les flux de capitaux qui s'investissent à court terme, d'avoir un système de taxation par exemple qui rende le taux d'intérêt là directement négatif. Ce système de taxation est connu dans des économies comme par exemple le Brésil pour ralentir le mouvement d'appréciation de la devise.
À quoi ça sert et quel est finalement l'effet recherché ?
L'effet recherché est de ralentir les flux qui rentrent donc sur une devise, et là effectivement le franc suisse en particulier, de façon à rendre peu attractif effectivement ce placement. Le problème que l'on rencontre aujourd'hui sur le franc suisse, c'est que ces mouvements ne sont pas dictés bien entendu par les écarts de taux d'intérêt, mais sont dictés par le niveau de risque que l'on a dans les autres zones, la zone dollar ou la zone euro.
Est-ce que dans la conjoncture d'une économie mondialisée, cette mesure pourrait s'avérer efficace pour la Suisse ?
C'est une mesure traditionnellement de court terme quand on regarde le passé, et l'efficacité effectivement est relativement limitée, mais c'est néanmoins un acte très important. Ça affirme la volonté de la Banque nationale de ne pas rester passive par rapport à l'appréciation. Alors sur les marchés d'échange, le risque est effectivement que ces mouvements soient faibles par rapport à l'inquiétude que l'on a donc sur les deux autres zones, américaine et européenne.
Et une éventuelle introduction d'intérêt négatif aurait un impact pour monsieur tout le monde, les citoyens suisses finalement ?
Alors là, on parle des flux rentrants de capitaux à court terme. On ne parle pas, bien entendu, des dépôts sur les comptes courants, sachant que, bien entendu, avec ce système de taux d'intérêt très bas, ceux-ci seront directement impactés, c'est-à-dire que les rémunérations sur des dépôts très courts, donc avec une maturité extrêmement courte, vont tendre vers zéro, s'ils ne sont pas déjà à zéro, avec un système dans lequel, si les banques prélèvent de légers frais, eh bien à ce moment-là, le return, le rendement net que l'on a sur ces placements devient facile. facilement négatif. Donc c'est une incitation à plutôt aller vers de la consommation, à ne pas détenir des encaisses oisives qui seraient éventuellement rémunérées, et donc à aller vers l'endettement ou vers la consommation.
Maintenant qu'on cerne un peu mieux ce système de l'intérêt négatif, est-ce que vous pouvez nous dire si son application aurait une quelconque influence finalement sur la force du franc ?
Il y en a eu une sur l'effet d'annonce, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un acte politique et une décision forte de la part de la Banque nationale suisse. Donc il y a eu un impact bien entendu donc sur les marchés. Le problème c'est ces taux d'intérêt, même négatifs ou même très bas, sont à balancer par rapport au niveau de risque qui sont sur les autres zones. Et là, on a le risque que, bien entendu, les facteurs d'inquiétude demeurent encore sur la zone euro et sur le dollar par rapport à ces mouvements qu'a effectué la Banque nationale suisse.
Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée, invité par Fabrice Godiano. Économie encore, les employés de Swiss Metal vont enfin recevoir leur salaire de juillet. L'annonce a été faite ce matin par le commissaire provisoire au sursis concordataire. Les 450 employés répartis sur les sites de Dornach dans le canton de Soleure et Reconvilliers dans le Jura bernois attendaient avec impatience ce versement bloqué pour des raisons de liquidité. Maurice Doucasse.
C'est avec nervosité que les employés de Swiss Metal regardaient chaque matin dans leur boîte aux lettres pour savoir si leur salaire de juillet était enfin versé. Pour remédier à cette situation, les représentants du syndicat Unia, les cantons concernés de Soleure et de Berne ainsi que le secrétariat d'État à l'économie ont beaucoup travaillé ces jours-ci avec le commissaire provisoire afin justement de débloquer la situation. Grâce à l'engagement de tous les intéressés, le versement des salaires de juillet est donc assuré. Les collaborateurs décident de Reconvilliers de Dornach peuvent donc s'annoncer au bureau du personnel de Swiss Metal et signer une déclaration de cession en faveur de la caisse de chômage du canton de Soleure. Le virement du salaire sera ensuite effectué dans un délai maximal de 3 jours. Par ce procédé, les cantons concernés, la caisse de chômage représentée par le SECO et le syndicat Unia disent effectuer une contribution pour la sauvegarde de l'avenir de Swiss Metal dans la région. De son côté, le syndicat Unia, qui se félicite de cette solution qui permet d'éviter, je cite, des situation sociale difficile, lance un appel à la bonne volonté de la banque BNP Paribas. L'organisation syndicale demande à l'établissement bancaire de régler la question du dépôt des matières premières qui sont toujours bloquées pour des raisons de manque de liquidité. Cela devrait permettre aux employés de reprendre le travail sereinement lundi matin.
Les jeunes libéraux radicaux ont affiché leurs ambitions pour les élections fédérales ce matin à Berne. 12 d'entre eux seront placés sur les listes principales du parti pour le Conseil national. Ils comptent notamment sur les initiatives cantonales qu'ils ont lancées à Fribourg, au Grison ou à Lucerne, ainsi que sur leur mobilisation contre le prix unique du livre pour marquer des points. Et cette question qui nous taraude, Christian Favre, elle sert à quoi finalement ces sections jeunes des partis politiques ?
Eh bien, l'évidence, tout d'abord, ils servent à assurer la relève. Un parti qui compte une section jeune efficace démontre qu'il exerce une force d'attraction, qu'il est connecté avec la société d'aujourd'hui, ce qui n'est pas anodin dans un monde politique souvent perçu comme grisonnant. C'est donc pas un hasard si les jeunes souvent sont mis en avant par des partis. 3 exemples, celui d'Isabelle Moret, jeune PLR au moment de son élection à Berne en 2007, propulsée en Suisse vice-présidente du parti. L'ancienne figure des jeunes socialistes et candidat au national, Cédric Vermouth, devenu lui aussi membre du comité directeur du PS, ou encore Tony Brunner, qui était le plus jeune élu sous la coupole avant d'accéder à la présidence de l'UDC.
Et ça veut dire que leur manière de faire de la politique est différente ?
Alors bien sûr, il y a du mimétisme, l'aîné reste un modèle. Malgré tout, les sections jeunes se distinguent par leur esprit tête brûlée. Et s'ils jouent parfois le rôle de testeur d'idées pour les stratèges de leur parti, les jeunes cherchent à se démarquer. Ils n'hésitent pas à provoquer, même, comme les jeunes PLR l'ont d'ailleurs souligné ce matin, leurs positions sont souvent plus dogmatiques que celles de leurs aînés. Un constat particulièrement vrai pour les jeunes socialistes qui manient volontiers l'art de la provocation via l'affiche électorale. Tendance identique du côté des jeunes UDC et en Valais en particulier. On l'observe encore ces jours avec cette affiche choc ou un cliché de la chanteuse décédée Amy Winehouse, visiblement très peu en forme, est utilisée pour dénoncer la dépénalisation des drogues.
Et puis les jeunes, c'est aussi de la main-d'œuvre utile pour les partis, Christian.
Oui, c'est une forte capacité de mobilisation, beaucoup d'enthousiasme, des qualités très utiles quand il s'agit de récolter des signatures. Reste ensuite à concrétiser, à trouver sa place dans les partis, sur les listes électorales. Et ce passage est difficile parce que bien souvent, les aînés s'accrochent à leur fauteuil et ont du mal à faire place libre à la nouvelle génération.
Christian Favre, en direct de nos studios du Palais fédéral à Berne. Un arrêt du tribunal fédéral sur la taxe aux sacs poubelles publié ce matin aura sans doute une incidence sur le financement de l'élimination des déchets dans de nombreuses communes romandes. Un arrêt qui fait suite à un recours déposé par Romanel sur Lausanne, déposé contre une décision de la Cour constitutionnelle vaudoise. La commune avait opté pour un financement dual, un impôt et une taxe forfaitaire par ménage, Laurence Jobin.
Oui, il y a deux choses dans cet arrêt. Tout d'abord, le fait que le tribunal fédéral refuse que la totalité des coûts de l'élimination des déchets soit payée par les impôts. Il juge qu'un plafond de 30% constitue une limite supérieure à ne pas dépasser. En cela, Monrepos soutient la commune de Romanel-sur-Lausanne, puisque la Cour constitutionnelle vaudoise estimait qu'un recours à l'impôt était totalement exclu. Par contre, là où la commune perd, c'est sur l'utilisation de la taxe forfaitaire par ménage. Là, le TFF estime qu'une telle taxe est incompatible avec la loi sur la protection de l'environnement. Pour les juges, difficile de s'imaginer comment un tel système tient compte de la quantité de déchets produits et déploie un effet incitatif. Par exemple, deux ménages de la même taille peuvent produire une quantité différente de déchets et pourtant payer la même taxe. Cet arrêt prône donc l'instauration d'une taxe au sac poubelle qui n'existe pour l'instant que dans le canton de Fribourg et dans certaines communes des cantons de Vaud et du Jura en Suisse romande. Malgré les résistances sur cette question sensible, Neuchâtel devrait s'y mettre l'an prochain et un projet est actuellement sur la table du gouvernement vaudois après plusieurs tentatives infructueuses.
Un tsunami meurtrier s'est abattu sur le lac Léman en l'an 563. Le journal 24 heures se fait l'écho aujourd'hui des conclusions des recherches menées par une spécialiste genevoise des sédiments lacustres. Elle affirme qu'une partie du Gramont est tombée dans le delta du Rhône, provoquant des vagues gigantesques. Michel Eman a demandé à Flavio Anselmetti, professeur de géologie à l'Institut de recherche de l'eau des écoles polytechniques fédérales, si un tel scénario pourrait se reproduire.
C'est quelque chose qui peut arriver de nouveau parce que le delta du Rhône, c'est un système bien dynamique. Il y a des quantités énormes de sable qui arrivent par le Rhône, qui sont déposées près du delta. Et potentiellement, ça, c'est un système très instable. Alors, c'est possible que des quantités énormes des sédiments peuvent descendre de nouveau lors d'une catastrophe. C'est la question un petit peu combien peut descendre à un moment, parce que la hauteur de la vague est dépendante de la quantité qui est instable. Et c'est possible que c'est seulement un petit peu du sédiment qui descend, mais c'est aussi bien possible que c'est une partie plus grande devient instable et ça peut être augmenté comme le cas historique par une chute de roche qui tombe sur le delta, ou bien ça, on peut avoir aussi des tremblements de terre qui le font instable, mais c'est vraiment très difficile à prédire.
Des propos recueillis par Michel Eman, les géologues ont également découvert qu'un autre tsunami s'était produit il y a 400 ans dans le lac des Quatre Cantons, touchant la ville de Lucerne.
Le 12-30, David Racana.
Musique.
C'est l'an 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup, le renard chanter.
C'est l'an 10 ans, je m'en irai. J'entends le loup, le renard chanter.
Et j'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter.
Et j'entends le loup, le renard et la belette.
25 000 spectateurs sont attendus jusqu'à samedi aux Illations pour la 17e édition du Guinness Irish Festival. Trois jours de festival aux accents celtiques avec ce soir à 20h30 les Bretons du groupe Trianne que l'on écoute en ce moment et dont vous êtes l'un des fondateurs. Jean-Louis Jossic, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Votre groupe a 40 ans cette année, c'est le record de longévité pour un groupe français. Vous prenez toujours autant de plaisir à partager votre musique entre vous et avec le public aussi?
Oh oui, plus que jamais, autrement on aurait arrêté déjà, non. Simplement, on se sent un peu plus responsable que quand on est jeune, on a un peu plus le trac sur le premier morceau. On se dit qu'on a une grosse responsabilité, bon c'est vrai, mais on a toujours la pêche, évidemment, et on espère bien atteindre le 50e anniversaire.
Ces deux décennies, en tout cas, vous les avez mises au service de la musique bretonne pour la promouvoir, la faire connaître à travers le monde. C'était ça l'idée au départ?
Oui, au départ, c'était de s'éclater en faisant une musique qui n'avait pas été faite par les autres, parce que c'était la musique de notre pays, et que de même que des gens comme Bob Dylan, comme en France Hugo Frey, avaient fait ce qu'on appelait le folk song, donc la chanson à partir de la tradition avec des instruments contemporains, on a eu envie de faire la même chose. Et puis ensuite, l'idée est venue évidemment de faire passer des messages au travers de ça. C'est l'idée que on ne peut pas continuer à vivre comme 280 millions d'Américains, je parle des États-Unis. Il faut garder des valeurs, il faut les projeter dans le futur. Donc il y a toute une démarche humaniste, écologique, je crois. La musique restant l'essentiel.
Et les prestations scéniques de Trianne sont très appréciées du public, les déguisements, les instruments, l'ambiance. C'est là finalement sur scène que vous arrivez le mieux à vous exprimer?
Oui, parce que le disque pour nous c'est de la musique en boîte, hein. C'est rien d'autre, c'est figé, c'est alors que la scène c'est cette espèce de fragilité, ce contact de cœur à cœur avec un public qui fait qu'à chaque fois c'est différent et qui fait qu'il y a cette espèce de participation enthousiaste. C'est interactif, comme vous le disiez, il y a les costumes, il y a le délire, il y a la profondeur par moment, le rire, la réflexion, la danse, et c'est cette espèce de principe de douche écossaise, le chaud, le froid, qui nous anime en scène.
Merci beaucoup Jean-Louis Chaussic d'être venu quelques minutes en direct.
Merci
dans ce journal.
De m'avoir supporté.
Vous êtes donc l'un des membres fondateurs du groupe Trianne. Vous répondiez à l'invitation d'Yves Terrani et bon concert ce soir au Guinness Irish Festival du côté de Sion. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Dernier épisode de notre série consacrée au pays de l'ex-URSS, 20 ans après la chute de l'Union soviétique, direction l'Ukraine où l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko est actuellement jugée pour abus de pouvoir dans la signature d'un contrat gazier avec la Russie. Un procès qualifié de farce par l'égérie de la Révolution Orange de 2004 qui accuse l'actuel président Viktor Yanukovych d'avoir orchestré cette affaire pénale dans le but de l'éliminer politiquement. Frédéric Fuifer s'est rendu dans la salle d'audience du tribunal de Kiev, barricadé par un cordon de policiers et où l'avocat et parlementaire Sergueï Vlasenko, membre du parti d'opposition de Yulia Tymoshenko, tentait désespérément d'entrer. Écoutez.
Yulia, premaista! Yulia, premaista!
Yulia! Я народний депутат України.
Je m'appelle Sergueï Vlasenko, je suis parlementaire. Et vous voyez la réaction de ce policier, il a choisi de rester silencieux. J'essaye un peu de forcer le passage pour entrer dans la salle du tribunal, mais il n'y a rien à faire. C'est une violation de la loi et de toutes les traditions démocratiques.
Comment vous expliquez ça ?
Ce régime, depuis qu'il existe, c'est-à-dire il y a un an et demi, est passé de démocratique à complètement totalitaire. L'Ukraine n'est plus du tout démocratique actuellement.
Est-ce que vous pensez que c'est lié aux relations avec la Russie et le pouvoir ?
Non, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine n'a rien à voir avec les relations qu'on peut avoir avec la Russie. Le président ukrainien veut devenir le tsar et pas du tout un simple gouverneur au service de la Russie.
Voici donc dans la salle du tribunal où Yulia Tymoshenko comparaît aujourd'hui et elle conteste en fait le juge qui aujourd'hui va siéger ici dans le tribunal.
Я адвокат, хочу пройти зараз в зал судового засідання, мене ніхто не пускає. Je suis l'avocat, je voudrais aller dans la salle.
Vous pouvez pas rentrer.
Oui. Oui.
Vous êtes l'avocat de madame Tymoshenko?
Dans ce moment non. Mais peut-être c'est possible.
Yulia Tymoshenko, vous sortez à l'instant de ce tribunal, un tribunal dont vous contestez l'autorité. Pour vous, ce procès n'est pas équitable.
Toute cette affaire se résume à une répression politique contre moi de la part du président Yanukovych, car je suis sa principale rivale politique dans ce pays. Ce procès est conduit en violation de la Constitution, de la loi ukrainienne et de mon droit à la défense. Mes défenseurs n'ont pas eu le droit de consulter mon dossier de façon normale. On leur a donné 3 jours pour étudier 5000 pages, ce qui est totalement impossible pour qui que ce soit.
Est-ce que la démocratie est une chose qui n'existe plus ici en Ukraine ?
Je suis du même avis que les conclusions énoncées dans le rapport fait par l'ONG Freedom House. Il montre qu'en Ukraine, le président Yanukovych est en train de construire une autocratie et une kleptocratie. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il cherche à balayer la démocratie en éliminant toutes les forces d'opposition en Ukraine.
Un reportage signé Frédéric Pfiffer. Vous pouvez retrouver notre série URSS 20 ans après sur notre site internet rsrinfo.ch. On part à la mer, direction Tel Aviv en Israël, où la longue plage de sable est toujours très fréquentée. Un espace balnéaire où l'on retrouve toutes les tendances de la société, comme a pu le constater notre correspondante Aude Markovitch.
On est là jusqu'à midi, une heure. Depuis 6 heures du matin. On joue aux cartes, on mange, on a tout apporté.
Eux, ce sont Boaz, Eli, Yehuda et leurs amis habitués de la première heure. Ils se retrouvent chaque matin sur la Taillelette, la promenade qui court sur 13 km le long de la plage de Tel Aviv. Une plage ouverte à tous, mais où les communautés qui forment le patchwork de la société israélienne ont recréé leur microcosme. Près de Jaffa, tout au sud, les familles arabes font trempette. Beaucoup de femmes y gardent leurs vêtements pour entrer dans l'eau. À l'autre bout de la plage, au nord, près de l'hôtel Hilton, c'est le coin des religieux. Un jour les hommes, un jour les femmes. Ruth y prend le temps de lire des psaumes.
Les psaumes, chaque fois qu'on a du temps libre, il faut les lire. C'est ce que je fais. Je n'ai pas eu le temps en route.
Là aussi, les femmes se baignent avec leurs vêtements. Bathsheba explique.
Parce qu'il y a les gardiens de plage et on doit rester modeste, alors on met des vêtements pour être discrète.
Sur la plage, hormis le roulis des vagues et les cris des enfants, ce sont surtout les gardiens qu'on entend. Perchés au haut de cahutes de bois, ils interpellent à plein poumon les nageurs imprudents. Pas loin de la plage des religieux, il y a celle des gays. C'est le coin préféré d'Eran.
C'est tranquille dans cet endroit, il n'y a pas trop de monde. On l'appelle la plage des homos. Il y a des regards qui se croisent.
Tout près, il y a la bande de plage réservée aux chiens. Aaron y fait prendre une douche à son vieux compagnon Benji.
Si on pouvait aussi lui arranger un massage, ce serait bien. À la plage, il se fait surtout des copines. Il vient de Jérusalem deux fois par semaine. Là, c'est les grandes vacances. Il n'y a pas école, alors il peut venir.
Là, c'est le son des matkots, les raquettes en bois omniprésentes sur la plage et devenu un quasi-sport national. À la tombée du jour, les douches fonctionnent à plein régime et les baigneurs épuisés de soleil laissent la place aux clients des cafés qui, les pieds dans le sable, viennent y prolonger la soirée. Aude Markovitch, Radio Suisse Romande, Tel Aviv.
Après 10 ans de combats menés contre la pédophilie en Suisse, l'association Marche Blanche estime qu'il est temps de mettre un terme à ses activités. Et on en parle avec vous, Christine Bussa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Marche Blanche. Ça fait 10 ans que vous vous battez contre la pédophilie avec de belles victoires à la clé. On y reviendra. Vous pensez que votre mission est terminée? Vous avez envie de passer à autre chose?
Alors, ma mission personnelle est terminée, ça c'est sûr. Maintenant, il est quand même souhaitable que d'autres reprennent le flambeau, parce qu'il y a encore bien des choses à faire. Si ça pouvait se faire par les parlementaires, ça serait formidable et ça serait plus simple quand même.
Ça veut dire que là, en l'occurrence, actuellement, c'est vous qui portez un peu toute seule sur vos épaules cette association?
Complètement, oui, depuis 10 ans.
Et donc, vous arrêtez?
J'arrête.
C'est pas seulement une pause, c'est la dissolution?
Alors, ça va être la dissolution de la Marche Blanche dans les temps qui viennent, absolument. Mais il faut quand même savoir qu'on va aller jusqu'au bout. Donc, je vais quand même continuer jusqu'au bout des actions qui ont été commencées, c'est-à-dire la première initiative qui a été votée, qui a été acceptée pour l'imprescriptibilité. Donc, c'est pas encore entré tout à fait dans le code pénal. Il y a encore des choses à faire. Et surtout, là, on a fini la récolte des 100 000 signatures pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants. Si bien que d'ici, j'en pense, peut-être 2 ans, ça dépend s'il y a un contre-projet ou pas, le peuple va devoir voter. Donc on a encore besoin de force, donc je suis encore là pour répondre sur ces sujets précis, mais effectivement pas sur d'autres sujets, ni pour entamer des nouvelles batailles.
Ces 10 ans de lutte pour cette association Marche Blanche, vous les avez vécues comment? C'était difficile?
Oui, je dirais que, à part les quelques succès où ça a été une très grande joie, hein, quand même, quand on a réussi à faire quelque chose comme, par exemple, en 2001, la première Marche Blanche, où il y a 10 000 personnes qui sont descendues dans la rue avec pour seule revendication la mise en place d'une cellule de surveillance du réseau Internet. Il y avait 2 demi-agents à mi-temps et on en réclamait un nombre suffisant et le jour de la Marche Blanche, le Conseil fédéral annonçait qu'il mettrait 12 agents en place. place. Et c'est aussi grâce à ces 12 agents quand même depuis 10 ans qu'on a pu démanteler des réseaux pédophiles comme l'affaire Genesis, 1300 pédophiles en Suisse qui ont été arrêtés et tout ça. Donc je crois que la Marche Blanche a quand même réussi à stopper un bon nombre de pédophiles. Donc ça, c'était une grande victoire. Donc là, c'était une joie, effectivement, d'avoir réussi ça. Et il y a eu les deux initiatives aussi. Bon, l'initiative populaire pour l'imprescriptibilité, bien sûr, une grande satisfaction, et la prochaine qui, à mon sens, sera acceptée. Mais je dirais, pour répondre à votre question, qu'en dehors de ça, c'était uniquement un fardeau, oui.
Vous allez suivre donc quand même, vous l'avez dit, l'évolution des dossiers en cours. L'avant-projet de loi sur l'imprescriptibilité des actes pédophiles a été présenté il y a quelques semaines par le Conseil fédéral. Vous en êtes satisfaite, Christine Bussard ?
J'en suis satisfaite, tout à fait, parce que la discussion que j'ai eue avec Madame Widmer-Schlumpf l'année dernière, elle préconisait un âge de 12 ans, c'est-à-dire qu'un enfant de 10, elle parlait même de 10 ou 12 ans, ça me paraissait quand même un petit peu aberrant. Vous regardez un enfant de 10-12 ans, vous l'imaginez pas, enfin, ça se discute pas, c'est tout. Donc maintenant, l'âge a été remonté à 14 ans, donc c'est quand même une satisfaction. Je pense que c'est un bon âge. 16 ans, c'est la majorité sexuelle. Je pense qu'à 14 ans, des jeunes sont tout à fait à même de savoir ce qui leur arrive et de pouvoir déposer plainte dans un délai. On n'a pas forcément besoin de l'imprescriptibilité pour ça. Il y a quand même de la prévention. Et à 14 ans, je pense que c'est un bon âge, oui.
Le peuple sera amené à se prononcer dans un an ou deux sur l'initiative qui interdit aux personnes accusées de pédophilie de travailler avec des enfants. Le projet du Conseil fédéral prend cet aspect en compte. C'est pas suffisant selon vous ?
Non, bien sûr que non. Ce projet déjà, puis c'est aussi une des raisons pour laquelle j'arrête aussi la Marche Blanche et que j'en peux plus, c'est que quand on regarde comment ça se passe au Parlement, je vous donne l'exemple de Carlos Omaruga, qui est un conseiller national socialiste, qui dès le départ de la Marche Blanche, c'est un contre absolument tout ce qu'on faisait, donc cet avocat spécialiste du droit du bail et qui crie sous tous les toits aux droits humains, c'est insurgé contre tout ce qu'on faisait en nous traitant de populistes. Donc il a tenté de faire voter non à absolument tous les projets qu'on posait au niveau du Parlement et il a repris absolument toutes nos initiatives parlementaires pour en faire sa propre motion. Donc c'est cette motion qui maintenant a été proposée par Madame Somaruga et qui va certainement servir de contre-projet à notre initiative. Mais cette motion, c'est du vent. Il propose que le juge puisse interdire à un pédophile de travailler avec des enfants, mais n'aura pas forcément l'obligation. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est déjà le cas, le juge peut déjà interdire de travailler avec des enfants. Donc il faut que les gens sachent qu'il n'y aura absolument rien de nouveau. Là-dedans.
Vous, ce que vous voulez, c'est que ce soit systématique.
C'est systématique. Une personne qui est condamnée pour acte sexuel sur des enfants n'a plus rien à faire dans un milieu avec des enfants. C'est clair et net.
Avec la disparition de la Marche Blanche, qui sera finalement en mesure de se battre contre les pédophiles ? On vient de l'entendre, le monde politique est visiblement pas tellement en mesure de prendre le relais.
Alors, ce qui est sûr, c'est que du côté du PDC, il y a quand même quelques personnalités. Je cite Madame Chiara Simoneschi, il y a aussi Luc Bartassa, il y a surtout Christophe Darbollet, qui sont déjà des personnes qui sont très touchées par ce sujet. Mmh. Dans les milieux UDC aussi. Au niveau des socialistes, on a eu un énorme soutien de leur part au tout début quand on a lancé la Marche Blanche et tout d'un coup, quand ils ont vu que certaines personnes de l'UDC venaient, ils ont décidé officiellement de se retirer. Mais c'était uniquement parce que la droite arrivait. Donc c'est ce jeu politique et c'est ça, je le répète une deuxième fois, qui fait que je veux arrêter. C'est que j'en ai marre de ces bagarres politiques et de voir ces socialistes qui tirent la couverture à eux et qui votent systématiquement non. Tout ça parce que soi-disant on est de droite.
Et le message a été bien entendu. Merci beaucoup Christine Bussard d'être venue en direct dans ce journal, présidente donc de l'association Marche Blanche en voie d'extinction. Vous répondiez à l'invitation de Célestine Périssinotto. Bon après-midi à vous. Merci.
Merci, au revoir.
Et on prend des nouvelles du ciel. Avec Stéphanie Collère.
Il y a toujours des bancs de nuages au nord du plateau, sur la Joye et la région des Préalpes. Ils seront encore présents cet après-midi et pourront même être assez denses par moments. Sinon, le temps sera bien ensoleillé avec des maxima comprises entre 25 et 28 degrés. Un faible vent de secteur ouest souffle en montagne. La nuit devrait être sèche et le ciel peu couvert. Demain, le temps sera partiellement ensoleillé en début de matinée, mais le ciel deviendra progressivement nuageux par l'ouest avant la mi-journée. Ensuite, il y aura des averses localement orageuses jusqu'en soirée. La journée de samedi ne sera pas très différente. Le ciel sera changeant, de brèves éclaircies alterneront avec des passages nuageux accompagnés d'averses, voire d'orages ponctuels. Les maxima seront proches de 25 degrés vendredi et samedi. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec de fréquentes pluies.
Infotrafic RSR.
Des bouchons sont signalés au passage du tunnel du Saint-Gothard, 2 km à l'approche de l'entrée nord, 5 km à l'approche du portail sud du tunnel du Saint-Gothard, sur l'axe du tunnel du Mont-Blanc. Le temps d'attente côté français est de 45 minutes. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, il est 13h.